chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au CAPI Service. Nous parlons aujourd'hui du tribalisme en milieu étudiantin, institutionnel et professionnel. Comment lutter contre ces fléaux qui rongent presque tous les secteurs de la vie nationale. Dans les institutions publiques, les affinités tribales jouent un rôle important pour être promus à un grade supérieur ou pour se retrouver pour aller en mission ou pour d'autres... pour recevoir d'autres intérêts. De même, en milieu étudiantin où des étudiants ont parfois des bonnes notes du fait qu'ils appartiennent à une même tribu avec l'enseignant, avec le prof, ils organisent des réunions de temps en temps, des ressortissants, des tels coins. Et au sein des entreprises publiques, on rencontre des personnes qui sont recrutées seulement sur base d'appartenance tribale. Alors, que faire pour combattre ces fléaux, qui est le tribalisme? Appelez-nous pour témoigner, pour poser vos questions au 080 1-800-93-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Nous avons en ligne le professeur Gauthier Moussengue. Il est sociologue et enseignant à l'université de Kinshasa. Professeur, la première question est de savoir comment définissez-vous le tribalisme?
Bon, moi c'est Gauthier Moussengue. Oui, le tribalisme, en principe, en sociologie, le mot tribu n'existe pas. C'est plutôt ethnie qui existe en sociologie. Si on peut faire un transfert, comme le mot ethnie existe en sociologie, on parle plutôt de, au lieu de parler de tribalisme, on parle de l'ethnocentrisme. C'est ça justement, ce sont pas de l'ethnocentrisme. Alors, ça signifie c'est l'ethnie qui est au centre. C'est votre ethnie qui est votre préférence. Ça veut dire, si on peut maintenant faire un transfert au tribalisme, parce que le tribalisme c'est un mot vulgaire, c'est un mot de tout le monde. Bon, ça signifie que c'est une préférence à sa tribu. Donc on supplie l'objectivité, on supplie ce qui est établi, on supplie la rationalité, on voit essentiellement la tribu, donc ce qui est lié à la tribu, c'est la tribu qui est meilleure, donc la référence c'est toujours sa tribu. Donc c'est comme ça qu'on peut expliquer le mot tribalisme.
Voilà, et qu'est-ce qui cause cette pratique ou ces fléaux du tribalisme dans la société, dans les institutions publiques, même au niveau des universités? Qu'est-ce qui est à la base de cela, professeur?
Ça peut s'expliquer par la crise. La crise dans notre pays, elle est générale, elle est totale, elle est globale. Ce qui fait que, c'est surtout, actuellement on parle de la médiocrité. Ça s'explique par la médiocrité, mais ça s'explique aussi par la pauvreté. Donc cette crise-là est marquée par la pauvreté, ce qui fait que on fait des choix préférentiels parce qu'il y a crise. On n'a pas beaucoup de choix, on n'a pas beaucoup d'opportunités. La seule opportunité qui apparaît, on en profite pour avoir une préférence liée à l'ethnie, liée à la tribu. C'est ça.
Donc c'est la pauvreté en fait qui est à la base de cela, qui amplifie le tribalisme.
Oui, c'est la pauvreté, c'est la crise qui amène la médiocrité et qui nous conduit maintenant au tribalisme, à la préférence à notre tribu.
Et certains disent qu'on est beaucoup plus en sécurité avec les membres de sa tribu lorsqu'on accède au pouvoir ou on occupe un poste important.
Bon, ça c'est... Bon, pour ceux qui peuvent bien le justifier, mais je connais beaucoup d'autres personnes qui expliquent ça autrement. Mais c'est justement la crise, comme je vous ai parlé, qu'il y a une crise. Il y a une crise totale, globale, ça s'explique par la crise morale. C'est comme ça que, par cette préférence, c'est une façon de justifier la préférence de la tribu. En réalité, ce n'est pas toujours ça. Parce que nous, les enseignants, nous trouvons que on est plus en sécurité avec son enseigné. Donc, si vous avez un étudiant que vous avez enseigné, je ne sais pas si bon, vous étiez aussi étudiant, vous étiez élève, vous pouvez bien vous référer à la capacité morale que vous avez, le sens moral que vous avez vis-à-vis de vos enseignants. Vous savez, si vous avez un enseignant qui vous a bien enseigné, vous allez toujours vous sentir redevable vis-à-vis de lui. Pour moi, enseignant, je trouve que un enseigné, donc mon étudiant, mon élève, est plus sera plus fidèle à moi. Je serai plus en sécurité à côté de mon étudiant par rapport à quelqu'un que je ne connais pas. Mais bon, c'est quand les gens disent que je préfère quelqu'un de chez moi pour qu'il soit en sécurité, je trouve que ça ne se justifie pas, parce que nous connaissons beaucoup de cas des gens de chez soi qui trahissent, qui causent du mal. Mais donc pour moi, c'est une façon de justifier cette médiocrité, une façon de justifier cette faiblesse-là du tribalisme. Mais ce n'est pas toujours ça.
On le voit par exemple lorsque une personne est nommée comme PDG ou devient ministre, vous verrez les gens de sa tribu, les ressortissants de son village se regrouper, venir le féliciter, lui apporter des chèvres. On va même organiser un grand festin en son honneur où on va inviter les groupes traditionnels du terroir pour agrémenter ces moments. C'est des choses que nous vivons au quotidien, professeur. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'expression même du tribalisme?
Justement, c'est cette présenteur-là, village, de la tribu, des gens de même secteur, c'est cette présenteur-là qui crée le tribalisme. Parce que, vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a crise, il y a chômage. Alors, quand quelqu'un de chez vous trouve un travail, vous trouvez que c'est une occasion pour vous de trouver du travail. Donc, derrière lui, vous allez trouver du travail. Alors maintenant, le village y va, parce que le village attend quelque chose de lui, attend certaines facilités de lui, attend certaines faveurs de lui, parce que le village se retrouve en lui. Alors, ils y vont, ils lui créent maintenant des dettes morales. Donc, en chantant, en dansant. Alors lui maintenant, c'est plus dans les milieux politiques. Alors, vous savez que les politiciens, la force d'un politicien, c'est la base, c'est le public. Donc quand un politicien, bon, ici j'utilise un langage sociologique, hein, donc le public ça signifie sympathisant pour le langage ordinaire. Mmh. Donc un politicien, sa force c'est le public. Alors maintenant, les gens de son village constituent déjà son public le plus sûr. Alors maintenant, quand les gens du village y vont, ça fait déjà une force pour lui, et il fait passer à la télévision pour faire voir, voilà, il a une base, il a un public. Comme ça, les autres politiques qui le voient trouvent que, voilà, lui, il a une base, il a une force. Parce que la base, là, le public, là, c'est la force. Ça signifie qu'il a une force. Et à ce moment-là, vous, politiques qui recevez ces gens-là, vous vous sentez maintenant obligé d'entretenir ce public. Parce que vous devez entretenir cette force pour vous. C'est ça qui fera que vous ayez des postes. Parce que les dirigeants, les gouvernants ont besoin des gens, ont besoin des leaders, les gens qui ont des publics. À ce moment-là, ça fait pour vous une force et vous devez entretenir. Donc, ces gens du village, ce public-là, vous devez bien l'entretenir. Pour l'entretenir, vous devez leur donner du travail parce que ils ont des difficultés pour trouver du travail. Alors, vous devez maintenant créer de l'emploi pour eux. Mmh. C'est ce qui fait maintenant ces préférences, qui fait que les gens justifient ça par le tribalisme, ainsi de suite. Donc, c'est ça, cette préférence-là.
Comment lutter efficacement contre le tribalisme? Bim Pumba nous appelle des Kalemi. Marie-Paul est en ligne depuis Kisangani. Bim Pumba, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à tous et bonjour aussi à l'invité. Hein.
On vous écoute, Bim Pumba.
Vraiment, c'est un bon sujet que vous avez choisi de parler aujourd'hui. Bon, moi j'ai un témoignage, puisque je suis étudiant à l'université de Kalemi. Oui. Vraiment, le tribalisme, c'est devenu comme quelque chose là, vraiment adoptée par plusieurs personnes, puisque l'université de Calémie c'est une université constituée de plusieurs personnes venant de plusieurs tribus. Maintenant, il se passe des choses vraiment qu'on ne peut pas vraiment accepter. Puisque, comme il y a des Tawa, des Luba, parfois, même un étudiant pour passer, il faut être, je ne sais pas, des Tawa. Même pour être recruté enseignant, il faut être, je ne sais pas, des Tawa. C'est pourquoi j'aimerais demander à l'invité, est-ce que c'est punissable si une personne est déclarée avoir été, avoir utilisé cette, le tribalisme-là? Est-ce que cela est punissable par la loi?
D'accord, merci Bimpumpa depuis Calémie. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
On vous écoute, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au tribalisme?
Oui, monsieur le journaliste, le tribalisme est une valeur négative appelée à être abandonnée dans la vie de l'homme. Dans la mesure où, lorsque quelqu'un s'est fui, au fait que ce sont les gens de ses choix qui peuvent lui aider, qui peuvent lui faciliter, c'est vraiment un péché que je qualifie d'un péché meurtrier. Et c'est une pervers total. Monsieur le journaliste, vous allez comprendre que beaucoup cachent cette connotation, cette profession du tribalisme par la géopolitique. Alors que la géopolitique n'a rien à voir avec ce dont les gens pensent, de leurs préférences liées à sa tribu, liées à son village. Le tribalisme, lorsque vous analysez ses faits, ses méfaits dans la société, vous allez vous rendre compte que le tribalisme constitue un occultisme dangereux dans l'évolution de l'homme, dans l'évolution de l'humanité. Lorsque cette façon de voir les choses, de concevoir la vie, va jusque dans des établissements supérieurs universitaires, monsieur le journaliste, je confirme que la mort et la dérive sont devenus réellement quelque chose qui sont au rendez-vous. Pourquoi je le dis? C'est parce que l'université, les établissements supérieurs universitaires sont des institutions d'une haute connaissance et d'un haut savoir. Là, on forme des gens, on forme les cadres de conception. Mais si on cherche à former ces cadres de conception par des préférences liées à sa tribu, liées à son village, je crois qu'on est en train de former quelqu'un qui sera une bombe à retardement. Voilà pourquoi. Par rapport à la question de demander comment on peut lutter contre les antivalets, je pense que c'est les journalistes, il y a tout un chapelet de dispositions qui interdisent bien et bien les scientifiques, les personnels académiques, les personnels scientifiques, voire même les personnels d'appoint, de se verser à ces genre de pratiques.
Oui.
Nous avons les codes de l'agent public de l'État, nous avons l'éthique et déontologie professionnelle. Alors, les autorités doivent absolument faire observer ces dispositions réglementaires dans des établissements supérieurs universitaires. Alors, le faire observer au point que les contrevenants, les gens qui vont s'exceller dans les pratiques que nous savons bien, les enfants d'abord, les points sexuellement transmissibles, les associations qu'on les voit irriger dans des établissements supérieurs, seront traqués dans la justice, et en les traquant dans la justice, on va voir que l'entendance va beaucoup plus baisser. On
D'accord.
va baisser cette tendance pour aller vers la méritocratie, aller vers les valeurs positives pour avancer la société.
Merci. Sinon, merci Marie-Paul.
Absolument tomber dans ces
jeux
qui ne vont pas beaucoup plus.
Merci Marie-Paul. Malonga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre le tribalisme?
Bon, pour moi, d'abord, il faut comprendre très bien le tribalisme, puisque c'est une façon qui est déjà confondue par l'amitié, par la fraternité et par toutes sortes de vies qu'on peut vivre ensemble. Vous voyez, je peux vous dire que on ne peut pas couper le lien fraternel ou bien les connaissances pour éviter le tribalisme. Il y a d'autres qui analysent de mal ces mots-là. Comme vous êtes là, je dis, partout où vous pouvez attendre des noms de Malonga, même il y a d'autres personnes dans ce groupe-là, votre esprit, comme vous vous habituez déjà de Malonga, ça va vous pousser de s'intéresser de Malonga.
Alors, cela veut dire que vous soutenez le tribalisme, d'après vous, ce n'est pas une mauvaise chose.
Non, je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas.
Oui.
Je vais montrer un sens réel. Hein? Il y a une confusion déjà. Si les hommes s'aiment, ou bien les deux personnes s'aiment, s'attachent beaucoup, et ils se servent d'elles-mêmes, il y a d'autres fils qui leur accusent que non, ils sont des tribales. Ils sont ceci, c'est la raison pour laquelle j'invoque cet exemple. Si je dis à tant de ma langue, dans un groupe comme ça, je dis va s'intéresser de ma langue à part les autres. Ça, ce n'est pas le tribalisme. Mais le tribalisme est mauvais en soi. Il faut valoriser la vie professionnelle. Une personne professionnelle, en tout cas, il n'a pas devant lui son enfant, son petit frère, son grand frère, son père. Il a devant lui une personne réelle qui doit rendre un bon service à lui. Et c'est ce qu'il faut développer dans le moi de toute personne. Mais si quelqu'un développe le sien dans son moi, c'est là que mon prédécesseur vient de dire que il faut renforcer la lutte contre les antivaleurs. Ça, c'est en charge du ministère des Affaires sociales et tout consort pour activer cela à toutes les institutions, s'il vous plaît. À toutes les institutions.
D'accord.
Par la famille, à la maison, jusqu'à même au niveau du cabinet de la présidence.
D'accord, merci. Merci Malonga. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le tribalisme? Bonjour Gaston.
Bonjour, je salue aussi tout le monde.
Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour lutter contre le tribalisme?
Moi, je pense que le problème, d'abord, c'est que... vous savez, chez nous ici, on est élu chez soi. On est élu chez soi. Quand vous dites à une personne qui part, on t'élise chez soi. Par exemple, moi, qui suis Yofa, pour briguer un mandat politique, soit pour être député ou qui que ce soit, il faut que je rentre à Yofa pour que ceux qui m'appartiennent m'élisent là. Donc, c'est normal qu'on puisse aussi attendre que ceux qui tombent.
Là, il n'est plus en ligne, il y a eu un problème de coupure. Professeur Gauthier, vous avez suivi les propositions des auditeurs. Par exemple, Marie-Paul de Kisangani nous dit qu'il faut faire respecter le code de l'agent public de l'État, la méritocratie, la justice, il faut lutter efficacement contre les antivaleurs.
Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord faire une mise au point. Parce que tous ces gens-là ont parlé plus de l'université. Moi, je suis enseignant à l'université. Je vous dis que il y a moins, parce que je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y a moins de tribalisme à l'université. Vous savez, beaucoup de gens qui parlent de tribalisme à l'université, qui expliquent, ce sont nombreux qui expliquent leurs échecs par le tribalisme. Ce sont des faibles qui expliquent leur médiocrité par le tribalisme. Parce que souvent, les étudiants qui ne sont pas intelligents justifient leur faiblesse par le tribalisme, alors que il n'y en a pas vraiment. Vous pouvez comprendre que, pour preuve, vous ne verrez pas un étudiant intelligent qui va vous parler du tribalisme à l'université. Ça, à trois sincèrement parlant, un étudiant intelligent qui n'a ni père, ni mère, ni oncle, ni grand frère, ainsi de suite, à l'université, vous l'entendrez jamais parler de tribalisme à l'université. Vous n'allez pas l'entendre parler de points sexuellement transmissibles à l'université, ainsi de suite. Ce sont des gens qui sont faibles, qui expliquent leur faiblesse, parce qu'ils ne font aucun effort d'évoluer. Ils ne font pas beaucoup d'efforts, ils ne font pas ce sont des gens qui ne sont pas ambitieux, qui n'ont pas de performance. Ils expliquent maintenant leur crise, leur faiblesse, leurs insuffisances par le tribalisme. Donc, moi je ne vois pas un professeur d'université, sincèrement parlant, je ne vois pas un professeur d'université qui va compter les gens de son village, les gens de son ethnie, et puis met les papiers de ces gens-là à côté pour leur donner des faveurs, leur accorder des faveurs, leur donner des points. Je ne vois pas ça. Je ne connais pas ça. Sinon, moi-même qui te parle, je ne serais pas professeur à l'université. Parce que partout où j'étais, je n'avais ni père, ni mère, ni oncle, ni ainsi de suite, tout ça. Donc, et puis, qui vous a dit qu'un professeur, l'enfant d'un professeur d'université qui est intelligent ne peut pas réussir, ou bien ne peut pas être retenu assistant parce qu'il a fait des distinctions, ainsi de suite.
Mais, s'il existe quand même des universités où le tribalisme bat son plein, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer ou pour lutter efficacement contre cela?
Personnellement, je doute fort qu'il y ait vraiment le tribalisme accentué au niveau de l'université. Mais si cela existe, nous avons d'abord les institutions qui nous régissent. Nous avons des règlements. Tout notre comportement à l'université est régi par le règlement. Il y a des autorités académiques qui existent. Il y a des autorités des universités qui existent. Je demande à tout étudiant qui va se sentir menacé par le tribalisme, s'il dénonce ça, s'il va avoir une autorité académique, vous verrez que l'auteur du tribalisme sera sanctionné. Donc, c'est question de faire respecter le règlement, les lois, ainsi de suite. Il y a les règlements académiques ne nous permettent pas de transgresser tout ça, donc d'appliquer le tribalisme. Donc, un étudiant qui se sent menacé par le tribalisme peut voir l'autorité de son institution. Donc, on ne peut pas inventer des choses parce que les solutions existent déjà. Les solutions, c'est l'application des règlements qui existent au sein d'une institution d'enseignement supérieur et universitaire. C'est ça la solution.
D'accord. Avant de poursuivre, on va accueillir Eric qui nous appelle de l'Université de Kinshasa. Bonjour Eric.
Bonjour M. Gilles.
C'est jeudi, on vous écoute.
Okay, merci beaucoup de m'avoir ainsi accordé la parole. Les tribalismes, les régionalismes sont les vices qui freinent le développement de la RDC. Je suis d'accord avec vous, mais pas totalement d'accord avec les professeurs de l'université de Kinshasa qui ont dit de faire quoi, des baronnets sur seulement le tour du rôle, monsieur le chef. C'est-à-dire que les distinctions dans le milieu universitaire sont accordées aux étudiants ressortissants de quoi, d'une même province, que les doyens, les chefs de quoi, du département et autres là. Dans les milieux professionnels, la chanson est la même. On engage les gens en fonction de leur appartenance tribale. Bref, dans une société, s'il y avait un peu même les tests là d'embauche étaient informatisés et qu'à la fin du test, l'ordinateur affiche uniquement les gens qui ont réussi ou qui peuvent passer au second test et que les employeurs exécutent ce que la machine leur dit, on peut alors réduire les cas de tribalisme au Congo. Donc, le tribalisme pose beaucoup de défis sur toute l'infanterie de la RDC. L'on dirait sur les prix de 80% d'embauche en RDC. Ce sont les gens de la même famille, monsieur Gérard.
Alors, Eric, est-ce que vous avez des preuves qu'à l'université de Kinshasa, par exemple, pour avoir la distinction, il faut être de la même tribu que le doyen ou de la même tribu que le chef du département?
Merci beaucoup, mais je suis en train de faire lapider le professeur qui est en cours en fait. Mais je me demande s'il y a des preuves là, par exemple, si vous êtes même par exemple un TD là, il faut avoir même une liste de Okito, Okanga, Omeonga, c'est-à-dire que vous allez voir que toute une liste déjà de votre province là. Mais ce que je demande un peu, les autorités académiques doivent travailler en pleine collaboration avec les étudiants et promouvoir les rigueurs en franchise sans élitiser. C'est comme ça que j'allais ainsi marquer les fixes, monsieur.
Voilà, merci Eric de l'Université de Kinshasa. Jonas Kabinda, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur Jody Daniel, bonjour à l'invité, milieu des auditeurs de Radio Capri.
Nous parlons de la lutte contre le tribalisme, quelles sont vos propositions?
Oui, merci bien. J'entends l'invité, le professeur, dans ce qu'il soutient, bon, c'est comme qu'il veut dire que le tribalisme n'existe pas en milieu étudiantin. Mais avant de donner un exemple passant, je commence par lui poser une petite question. Est-ce qu'il y a une différence entre
le tribalisme et la xénophobie. Il va expliciter. Et puis, en politique, par exemple, moi, j'ai vécu un cas. Bon, quand, par exemple, votre frère qui est ministre, qui est ceci, qui est cela, vous dit qu'il faut appartenir à mon parti pour que vous soyez engagé. Est-ce qu'il s'agit aussi de la, du tribalisme? Alors que vous n'appartenez pas à ce parti politique-là. Mais on vous pose cette condition-là. Il faut appartenir à ce parti pour être engagé dans tel poste. Est-ce qu'il s'agit du tribalisme? Mais il est votre frère. Alors, je vais donner un exemple tangible. Il y a maintenant, je pense, 3 ans, nous étions encore étudiants à l'ISP Kanana. Un enseignant, je vais dire le nom de la tribu, pour besoin peut-être de délicatesse, vous allez m'excuser. Un enseignant a regroupé les étudiants de chez lui. Il leur a donné l'examen, les copies d'examen, bien avant. Il a retiré les... Il est allé à la section, il a retiré les copies. Il a polycopié, il a donné aux étudiants de sa tribu. Un matin, on se rend compte que les copies sont en nombre insuffisant. Les surveillants dans la salle avaient appliqué une stratégie. Il leur avait dit, bon, comme ça, j'ai distribué les copies. Bon, s'il y a manquement, il y a déficit, que tout le monde dépose les papiers propres et vous vous tenez debout. La stratégie avait été appliquée. On a fait appel au chef de section. Il est venu. Et les autres surveillants sont intervenus. On a compté, on a vu qu'il y avait des étudiants qui avaient déjà reçu anticipativement l'examen. Bon, et on avait demandé à ces étudiants, mais où est-ce que vous avez eu l'examen alors que le suivant n'a pas encore distribué l'examen. Et c'était chaud pour les tireurs de l'examen. Mmh. On a mis la main sur lui, on l'a entendu sur PV. Mais comme le secrétaire général académique était aussi de sa tribu, cet enseignant n'avait pas été sanctionné. Ça, moi, je veux que ça liste. Mais je vais dire le nom de l'enseignant et même de ce que c'est de l'académie. Ça fait passer à l'IST.
D'accord.
L'invité peut répondre à mes questions.
Merci, Joseph Moukina. Vous êtes à Kindou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Bonjour à tous les auteurs de la radio de la paix et bonjour à notre invité.
Joseph, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le tribalisme?
Oui, j'aimerais d'abord demander à notre invité tout ce qui se passe dans notre pays. Vous verrez des gouvernorats, même aux assemblées provinciales. Si vous n'êtes pas dans un parti politique et de la majorité présidentielle, vous n'aurez pas même un travail. Et qu'il y a même des intellectuels qui se passent même les conseils des ministres. Vous verrez qu'un conseiller qui ne sait pas même lire les Français ni écrire, mais il est conseillé parce qu'il est membre de la majorité présidentielle. Je vais maintenant poser la question à notre invité. Ce qu'on est en train de vivre dans notre pays, c'est du tribalisme ou quoi? Il peut me répondre à cela.
Merci.
Deuxième préoccupation que j'aimerais demander à notre invité.
Oui.
Nous sommes ici à Kindou, nous sommes une tribu Lega. Alors nous sommes une tribu qui est mal réputée. Partout où vous allez, vous êtes mal réputée. Même à l'université, quand on est Lega, vous êtes une bête sauvage. On ne sait pas maintenant quel mécanisme nous pouvons. Quel que soit, vous êtes intellectuel, vous n'aurez pas même. Il y a une relation entre l'EGA et notre tribu. On ne sait pas ce qui se passe chez nous. On ne sait pas quel mécanisme nous pouvons utiliser pour que nous soyons à l'aise, nous soyons vraiment confondus comme les hommes, soit à notre capacité intellectuelle, soit à notre popularité. Je ne sais pas ce que je peux dire cela. C'est pourquoi j'aimerais demander à notre invité qu'il me donne un peu vraiment des stratégies pour vivre un peu à l'aise dans notre province.
D'accord. Christian, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute, Christian.
Ok, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Le sujet vraiment est très important pour nous, les Kassaïens surtout. Dans notre espace du pays, il y a vraiment les tribalistes qui battent record dans nos universités et institutions. À mon humble avis, pour lutter contre le tribalisme dans les universités, instituts supérieurs, il faut d'abord lutter et éviter les antivaleurs sous toutes leurs formes. Et il faut aussi vraiment consolider la notion de la méritocratie, insister surtout chez les étudiants à leur inculquant la notion de travailler. À l'époque, je donne un exemple, quand j'étais étudiant, j'attendais toujours parler du terme « les enfants d'abord » dans des universités. Ben, donc, si tu étais cousin, frère, neveu ou nièce d'un professeur ou d'un chef de travaux, assistant et contrôle de la classe, donc, si, même si tu es médiocre, tu vas toujours réussir. Un étudiant qui ne travaille pas, qui est toujours inintelligent et faible, donc s'il est cousin ou frère et consort d'une autorité académique de la place, celui-là, il doit toujours réussir. Donc, ce genre de choses-là, c'est toujours rencontré chez les étudiants qui sont faibles et qui sont inintelligents. Mmh. Et les gens qui favorisent ce genre de choses, ce sont les professeurs qui étaient médiocres, les chefs de travaux qui étaient médiocres. Donc, ils sont passés aussi par de telles voies. À mon humble avis, il faut vraiment à s'attaquer à la cause. Donc, s'il faut mettre quelqu'un à la tête d'une institution ou d'une université, il faut que celui-là mérite. Donc, il faut que la notion de méritocratie puisse régner dans les institutions. Je me souviens encore d'un fait. Quand je suis étudiant en deuxième doctorat à l'Université Notre-Dame du Kassai, j'étais dans une association comme ça. Cette association-là regroupait les étudiants ressortissants de mon territoire. Et cette association-là était chapeautée par un chef de travaux et un professeur dont j'étais l'air, non? Et là-bas, qu'est-ce qui s'est raconté? C'était toujours des tribalismes. On n'encourageait pas les étudiants à lire, à travailler. Donc, c'était toujours...
Le tribalisme.
Oui, c'était toujours le tribalisme.
Donc, d'accord.
Je vois que c'est toujours les professeurs et les assistants qui sont passés par la médiocrité qui incitent toujours des mêmes choses. Donc,
d'accord.
Pour juguler à cela, il faut la notion de la méritocratie. Ici,
d'accord. Merci beaucoup, Elie. Joël Kalala nous écrit, il dit, il est à Kasumbalé, ça, que faire pour éliminer cet esprit de tribalisme? Et la question que je me suis toujours posée ici à Kasumbalé, ça, cet esprit règne au marché où nous vendons et partout dans les institutions entre les Kasséiens et les Katangais, que l'invité me réponde un peu par rapport à cette question. Professeur Moussengue Gauthier, vous avez la parole.
Merci bien. Bon, il y a eu trop de questions. Je n'ai pas pu écrire parce que je suis debout. Je suis dans un endroit où je ne peux ni je n'ai ni papier ni stylo. Je suis au téléphone.
Ah, oui, il y a par exemple écrire. Jonas.
Si je n'arrive pas à répondre à certaines questions, vous pouvez rappeler.
D'accord.
Je commence par celui qui a parlé de tribalisme et de faire la différence entre tribalisme et xénophobie.
Oui.
Tous les deux mots-là marquent le séparatisme. Mais ce qui fait la différence, c'est au niveau de l'expansion. Le tribalisme s'applique au niveau des tribus, comme il entend bien le mot, au niveau de l'ethnie. La xénophobie, c'est au niveau des États. Donc, ça signifie la préférence de son compatriote, ou bien la préférence de race. C'est ça la différence. Certains ont évoqué certains cas qu'ils ont vécu. J'espère que c'est vrai, ce qu'ils ont dit. Alors, à supposer que ça soit vrai, vous savez, des cas isolés ne peuvent pas être considérés comme une règle. Les faiblesses existent partout. Les éléments de crise existent partout. Mais un cas de faiblesse qui arrive à une seule personne, à deux personnes, ne peuvent pas devenir une règle. Ce sont des cas occasionnels, ce sont des cas isolés. Donc, on ne peut pas généraliser ça. On ne peut pas, parce que on était dans telle université, on se réunissait par rapport à l'ethnie, ainsi de suite. Et finalement, on croit que dans toutes les universités, partout ailleurs, ça se fait comme ça. Ou bien dans cette université-là, toutes les ethnies se regroupent pour comme eux. Non. Ça, ce sont des cas isolés, ce sont des cas qui ne se répètent pas. Ce sont des cas occasionnels. Mais nous décrions ça, on ne peut pas accepter ça. Surtout dans le milieu universitaire. On ne peut pas tolérer ça. Et dans tout ça, la solution, pour moi, c'est le contrôle et la sanction. Donc, les gens doivent savoir décrier, dénoncer toutes ces faiblesses-là, et les autorités doivent contrôler, après le contrôle, et sanctionner. Si on contrôle et on sanctionne, vous verrez qu'il y aura moins de faiblesses, des cas de tribalisme dans le milieu universitaire. Quelqu'un de Kassalessa, il a posé la question. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écrire pour me rappeler ça.
Oui.
Bon,
La personne de Katsumbalet
il y a six élèves qui sont menacés, je pense.
Voilà, d'après lui, il y a le tribalisme à Katsumbalet, ça même au marché entre Kassayan et Katangé. Ils vivent cela au quotidien, alors il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre cela.
Bon, tu sais, par rapport à ça, le problème c'est lequel? Le problème c'est quand un ressortissant d'un coin, par exemple un Moulouba, pose un acte qui est négatif, un acte qui n'est pas accepté, on généralise. Et qui a posé ça? C'était Moulouba. Ah, c'est qui a posé ça? C'était Moussaïli, c'était Mourega. On généralise à tous les regas. Voilà, les regas sont comme ça. Parce qu'un rega a posé tel acte. On oublie que c'est un homme, il a des faiblesses. Comme tout le monde, il peut poser un acte de faiblesse. On généralise. Alors maintenant, on prête maintenant l'intention à tout le monde, à tous les regas. On dit, voilà les regas, à supposer qu'il ait volé. Voilà, les regas sont les voleurs. Et finalement, tout le monde met ça dans sa tête. Et maintenant, on crée une attitude déterminée vis-à-vis des regas. Non, les baregas sont les voleurs. Quand quelqu'un vient vers vous, toi tu es Mourega. Ah non, les baregas sont les voleurs. C'est ça le grand problème qui se pose chez nous. Même les gens qui parlent du tribalisme, les gens qui parlent le grand problème, c'est parce qu'on généralise un seul cas, un cas occasionnel. Alors ça pose des problèmes.
D'accord, professeur, il y a Freddy depuis Kisangani qui nous propose ceci. D'après lui, pour lutter efficacement contre le tribalisme, il faudrait premièrement décourager les réunions ou associations à caractère tribal. À l'exemple de la Bako, Manema Union, Mambenga, Lusunga Meli, Isonga Songa, etc. C'est au travers de ces réunions que les initiatives tribalistes sont encouragées, parce que dans un État qui se veut uni, on ne peut pas songer à ça parce que nous sommes tous citoyens d'un même pays. Voilà, c'est ce que nous dit Freddy Bossimo depuis Kisangani. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, il a raison. Mais je voudrais aussi illustrer un cas dans ce sens-là. Moi, j'étais à Kisangani. J'ai fait mon gradué à Kisangani. Et à Kisangani, il y avait des associations liées aux ressortissants d'eux. Et qu'est-ce qui se passait? Comme il y avait la blésaille. Donc, quand un nouvel étudiant arrive, on lui pose la question, tu viens d'où? Il te dit, par exemple, je viens du Kassai. Ok, tu viens du Kassai, tu viens de... Bon, le Kassai, c'est la province, et bon, par exemple, le Kassai oriental qui est la province, et tu viens on va jusqu'au niveau du territoire. Alors, quand on vous identifie par rapport à votre territoire, on vous amène maintenant, parce que vous êtes nouveau, vous ne connaissez personne, on vous demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Non. On vous amène maintenant aux représentants des ressortissants de ce territoire-là. On vous les confie à lui, lui maintenant cherche à son tour à qui vous confiez, parce qu'il y a des différents groupes. On cherche celui qui est responsable, un groupe, quelqu'un qui est vraiment responsable. On dit oui, alors dans ce cas, on le confie à X, parce que lui, il a le centre de responsabilité. On vous le confie, et il vit avec vous, vous êtes dans le même groupe, vous oui. L'encadrez, il D'accord. vit avec vous. Vous voyez le sens positif de... Moi j'en ai vécu à Kisangani, mais c'était très positif. Nous avions des réunions, mais dans ces réunions-là, on ne parlait pas d'une préférence des gens de chez nous. Non, c'était pour encourager la réussite de chacun, se voir qui a difficulté, qui n'a pas payé le minerval, qui n'a pas fait ceci, cela. Et on assistait ceux qui n'ont pas payé le minerval. Si une fois, on a l'argent dans l'association, s'il y a un aîné de chez vous qui arrive, il vous a laissé l'argent, et on cherche à qui donner ça. Donc, c'est en termes de minerval, qui n'a pas encore payé le minerval? Et ça, c'était très positif pour nous. Donc,
D'accord.
nous n'allions pas, on n'allait pas chercher le professeur ressortissant de chez nous pour dire, bon, voilà la liste des étudiants de chez nous. Est-ce que le professeur ressortissant de chez nous, est-ce que nous connaissait? Non.
Oui, professeur Gauthier, un instant, le temps d'accueillir Félicien Kindoula de Kinshasa. Comment lutter efficacement contre le tribalisme? Félicien, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute.
Et moi, je dis que c'est un phénomène qui existe depuis des siècles et presque partout. Le tribalisme n'est pas un fait seulement de la République démocratique du Congo. Vous savez ce qui s'est passé dans d'autres pays civilisés aujourd'hui, ce qu'ils étaient hier, comment ils se sont fait des guerres entre des tribus ou des ethnies. La Belgique est restée un modèle jusqu'à aujourd'hui. Les Wallons et les Flamands, ils vivent séparés dans une même ville, une petite ville comme Bruxelles. Donc, mais c'est pas quelque chose d'encouragé parce que c'est un anti-valeur. Et cette anti-valeur est souvent et souvent favorisée par ceux qui sont médiocres parce que là où il y a des gens intelligents, là où il y a des gens compétents, on cherche toujours les gens intelligents et compétents pour marcher avec eux. Mais celui qui se sent faible, il recourt à la corde tribale. Et depuis un certain temps, pour l'intérêt de fortifier ou de consolider une des nations, les gens veulent vivre dans l'unité. Et c'est ce que Mobutu a tenté de faire pour que nous soyons une nation forte aujourd'hui. Sinon, avec tout ce qu'on nous fait comme guerre, tout ce qu'on fait pour diviser les Congolais, nous ne serions plus unis aujourd'hui, nous ne serions plus un pays. On aurait déjà balkanisé, mais c'est cette unité qui a fait que nous tenions bon aujourd'hui. Mais depuis l'arrivée du pouvoir de l'AFDL, nous avons l'impression qu'on est en train de reculer. Parce que...
Félicien, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour lutter contre ce fléau?
Mais qu'on continue la politique de Mobutu, on ne doit pas avoir les originaires qui doivent gouverner chez eux. Et on amène tout cela même au niveau des institutions nationales. Vous arrivez là-bas et vous êtes accueillis par la langue qui n'est pas la langue officielle. Et dès qu'on constate que vous ne connaissez pas cette langue-là, donc il n'y a plus d'intérêt sur vous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on trouve que ces problèmes de travail et l'emploi dans les entreprises partout, chacun veut travailler avec ceux qui sont de chez lui. Donc on commence d'abord par continuer ce que Mobutu avait fait, parce que c'était pas mal. Je ne vois pas pourquoi on a abandonné ça pour qu'on soit aujourd'hui chacun dans son coin, chacun dans sa province d'origine, dans son secteur d'origine. Or, généralement, quand on est au niveau du territoire, on se divise. Non, nous sommes de tel secteur. Quand on est au niveau du secteur, on se divise. Nous sommes de telle tribu. Quand on est au niveau de la province, on se divise. Nous sommes de telle tribu. Alors, quelle est l'importance dans tout cela? Cherchons l'excellence, cherchons la compétence, la méritocratie, et c'est ça qui peut construire le pays, qui peut faire développer le pays.
Merci Félicien. Bindou Maombi nous appelle de Massissi, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour à l'auditeur, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capitaine.
Rapidement Bindou, quelle est votre préoccupation?
Par rapport à ce sujet, ce que j'ai je voulais dire que dans la vie, le bien-être pour mieux vivre, c'est comme une fil à qui tout le monde veut le tirer de son part. Pour dire par rapport à ce sujet que tout le monde veut vivre dans une meilleure vie, veut avoir de la joie dans sa vie, pour dire si dans votre famille, vous avez une grande personnalité, s'il a quelque chose, s'il a de l'argent, ça peut parvenir à être le bonheur de toute une famille. Et c'est là que je vais poser une petite question à l'invité. Il y a certaines réalités que nous vivons ici. On peut en avoir une chance de dire, voilà, il y a une petite opportunité à des élèves qui ont eu, par exemple, certains pour ça. Et maintenant, on veut les donner des bourses. Mais si on a une grande personnalité qui peut parler de votre part, qui peut dire, voilà, il y a un élève ici aussi qui a eu des bons points, qu'il soit aussi sélectionné de ceux qui veulent avoir des bourses. Si on n'a pas une grande personnalité,
oui,
on ne veut pas
parvenir d'en avoir cette chance-là.
Merci Bindou.
Je vais demander, c'est aussi une forme de tribalisme ou quoi? Même, je ne sais pas si le tribalisme peut s'arrêter parce qu'on veut seulement avoir l'argent, on veut seulement vivre en paix. On ne peut pas dire, moi, je vais choisir, par exemple, les élections, on ne peut pas dire, j'ai choisi une personne qui est très éloignée et je laisse un oncle ou une quelqu'un de la famille qui peut se passer. Et s'il passe une fois, c'est toute une joie dans la famille, c'est à l'intérêt de sa famille, même c'est l'intérêt de ses enfants par rapport à ce sujet. Voilà ce que j'ai bien voulu dire. Merci, je vous remercie.
Merci Bindou Maombi. De Massissi, comment lutter contre les tribalismes en milieu étudiantin, institutionnel, professionnel, disons, dans tous les milieux? Gaston Galamouloumé nous écrit des Kanangaïdi. Nous avons vu pendant cette période, lors du dépôt des candidatures, les candidats à la députation prennent comme suppléants leurs femmes et fils. Même les élections ont un caractère tribal parce qu'aujourd'hui, tout le monde est allé déposer sa candidature chez lui dans son terroir. Et pour clore, le tribalisme ne prendra pas fin au Congo, même si aujourd'hui, on a d'autres dirigeants. Alors Félicien propose qu'on continue la politique de Mobutu, celle de ne pas placer les originaires chez eux. Donc on prend par exemple dans une province, on place comme gouverneur quelqu'un d'une autre province. Voilà, c'est ça qui renforçait l'unité nationale. Et puis interdire les dialectes dans les milieux de travail, de service. Il y a parfois, vous arrivez au bureau, vous trouvez les gens en train de parler dans un dialecte et si vous ne parlez pas la langue, vous êtes carrément écarté d'office. Professeur Gauthier Moussengue.
Merci. Il y a celui qui a parlé de comment, il y a un qui a posé la question comment mettre fin au tribalisme et l'autre qui a parler des suppléants, plutôt des choix des suppléants au niveau de certains députés qui ont pris soit leurs enfants, soit leurs épouses. Alors, si je peux commencer par le second, pour les choix des suppléants, vous devez savoir, dans les milieux politiques, pour ce choix-là, un suppléant, c'est celui qui va vous remplacer, on ne peut prendre que celui que l'on connaît, celui en qui on a confiance. Et ce n'est pas exclu qu'on prenne son enfant. Donc, on ne dit pas là-bas qu'on ne peut pas prendre son enfant, qu'on ne peut pas prendre son épouse. Si on trouve que son enfant est compétent, son épouse est compétente, on peut bien le prendre comme suppléant. Ce n'est pas mal. Donc, c'est un problème de compétence. Alors, deuxièmement, l'autre qui a parlé de qui a posé la question si on peut mettre fin au tribalisme, c'est difficile de mettre fin totalement au tribalisme. Vous avez, il y a un qui a parlé de, qui a parlé même un peu de l'historique du tribalisme. Il a fait voir que le tribalisme existe depuis longtemps. Et puis ça existe partout, de tout lieu et de tout temps. Mais ici, il faut chercher, comme c'est une faiblesse, ce n'est pas une valeur. Nous devons chercher à diminuer la fréquence du tribalisme. Et pour diminuer la fréquence du tribalisme, il faut un contrôle sévère et il faut sanctionner. Parce que les règlements existent. Donc, on doit respecter les règlements. Il faut un contrôle sévère et puis
la sanction.
Des sanctions sévères. Vous verrez que la fréquence va diminuer.
D'accord. Professeur, on s'arrête là pour aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir prochainement comme on n'a plus assez de temps. Je rappelle que vous êtes professeur Gauthier Moussengue, sociologue et enseignant à l'Université de Kinshasa. Merci et bonne journée.
Merci bien, monsieur le journaliste.